Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes là réunis aujourd'hui pour parler du bonheur. Puisque le livre qui vient de paraître, c'est le bonheur initiatique. Alors pour moi, c'est déjà un bonheur. Vous voyez comment c'est simple, le bonheur. C'est déjà un bonheur d'être là parmi vous. Et je remercie la librairie Mola de m'avoir invité. J'étais venu il y a, je ne sais pas, 5, peut-être même plus, 10 ans, c'est sûr. Mais comme je suis venu 2 fois déjà. Et c'est toujours une chose délicate, d'autant plus délicate que le bonheur est difficile. Le bonheur est difficile parce que nous sommes toujours à la recherche du bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Et c'est une recherche naturelle. Je dirais même que cette recherche du bonheur, même les animaux la recherchent. Et nous confondons bien souvent les plaisirs, le bonheur, la facilité à vivre. Et pourtant, nous portons à l'intérieur de nous ce désir puissant d'être heureux, et de rendre les autres heureux, d'être fraternel, comme nous disons en franc-maçonnerie. Mais à cause des autres, parce que nous, on est généreux, on est bon, on est fraternel, mais à cause des autres, nous sommes toujours amenés dans notre vie à choisir une voie tangente, à nous défendre, à être égoïste, à être pervers. Finalement, on doit se rendre compte que si nous cherchons ce bonheur, il y a une difficulté immense à le vivre. Et on peut se demander, et c'est un peu le rôle de notre réunion et de notre réflexion, pourquoi ? Pourquoi ce bonheur qui est si profond, que nous sentons avec sincérité, avec profondeur, pourquoi nous n'arrivons pas à l'exprimer ? Nous n'arrivons pas à l'exprimer pour au moins 2 raisons essentielles. La première des raisons, c'est que nous sommes donc, comme je le disais tout à l'heure, tenus par la société, tenus par les autres. Et nous rejetons la faute sur eux. Et puis, il y a une autre raison qui est plus difficile à percevoir, c'est que nous sommes formatés. Nous sommes formatés par notre éducation, nous sommes formatés par notre érudition, nous sommes formatés par notre histoire, et puis en fait, nous sommes aussi formatés par toute la civilisation. Alors, lorsqu'on veut se lancer à la recherche du bonheur, c'est difficile de vivre automatiquement. Si on veut vivre automatiquement, la vie étant un vaste mouvement, nous aurons des moments de plaisir ou de bonheur, et nous aurons des moments de souffrance, de désespoir, d'angoisse. Comme toute vie, normalement, nous devons la bâtir, nous devons la construire. Mais pour construire quelque chose, il faut un plan. Il faut savoir où et comment, quoi construire en nous. Et si on veut savoir quoi construire, il faut déjà savoir de quoi nous partons. Alors, je voudrais faire un tour peut-être assez long, puisque je disais que que nous sommes formatés par toute l'histoire de la civilisation et de l'histoire pour nous judéo-chrétiennes. Je voudrais faire tout un détour par cette histoire avant d'en arriver à quoi faire pour trouver ce bonheur et comment le trouver. Je ne sais pas si je serai bon sur ce passage, parce que est-ce que je l'ai trouvé moi-même, j'en sais rien. Enfin bon, on peut toujours en parler. C'est une faute que d'en parler, parce que l'initiation, le bonheur, la vie, ce n'est pas quelque chose qui se parle, qui s'intellectualise, c'est quelque chose qui se vit. Donc voyez bien que déjà on est en contradiction avec la construction du bonheur, si au lieu d'agir pour être heureux, nous commençons par parler. on peut dire n'importe quoi, en fait. Bon, je suis en train de faire une digression, c'est pas la peine. Revenons à comment nous avons été formatés, comment l'humain a été formaté. Je crois honnêtement qu'il faut commencer très loin, c'est-à-dire aux premiers hommes. Les premiers hommes qui nous intéressent seraient les Néandertaliens. Oui, ça fait 150 000 ans. Je remonte aux Néandertaliens parce que les Néandertaliens ont fait la révolution la plus essentielle pour l'histoire de l'humanité. Cette révolution essentielle qui a marqué toutes les civilisations et donc nous-mêmes, c'est la conscience que quelque chose vivait après la mort. Car les Néandertaliens sont les premiers qui ont enterré leur mort. Rien dans la nature ne pouvait les amener à croire que quelque chose allait survivre. Et pourtant, ils avaient cette conscience. Et une conscience très particulière qu'on va retrouver dans toute cette recherche initiatique du bonheur, cette conscience très particulière qui les amenait à enterrer les morts dans des espèces de tumulus, des ventres de la terre. Ils les mettaient dans la position fœtale. Bien souvent même, ils mettaient de la poudre rouge d'ocre sur leur corps. Ils les orientaient vers la sortie comme s'ils allaient renaître. Autrement dit, brusquement, dans l'histoire de l'humanité, est née cette conscience que quelque chose en nous était différent du corps physique et que quelque chose pouvait poursuivre et continuer à vivre. Je ne sais pas si vous concevez l'importance pour la conscience humaine de réaliser, c'est toute la différence avec les animaux. C'est toute la grande différence avec les animaux. À partir de cette conscience, l'Homo sapiens avait peut-être une conscience plus réduite de la mort. Et il y a eu deux grandes directions par l'Homo sapiens qui a vécu en même temps que le Néandertalien, donc ils se sont transmis leurs connaissances. Il y a eu deux grandes directions dans l'humanité. D'une part, la religion, c'est-à-dire ceux qui ne savaient pas, mais inquiets par la mort, étaient prêts, sentant qu'il existe quelque chose en eux, étaient prêts à accepter cette idée que quelque chose se poursuivait. Et tant mieux si on leur disait ce qu'il fallait faire pour poursuivre, c'était la naissance des religions. Et puis la deuxième grande direction, ça a été les initiations, c'est-à-dire des hommes qui se sont dit « si ça existe, je veux le savoir. Si ça existe, je veux l'expérimenter. Je veux en être sûr. » Et là, ça a été toutes les grandes initiations sont parties dans cette direction. Comment expérimenter le fait qu'il existerait en nous quelque chose d'éternel ? C'est important parce que ça rejoint les initiations perses, ça rejoint les initiations mésopotamiennes, ça rejoint les initiations babyloniennes, ça rejoint l'initiation égyptienne, l'initiation grecque et en fin de compte notre civilisation. Et si on veut regarder schématiquement et rapidement qu'est-ce qui a été transmis d'éternel, de majeur, parce qu'après, évidemment, chaque initiation a pris la forme qui correspondait à la civilisation. Mais si l'on veut regarder ce qui correspond de majeur et qui est éternel et qui est transmis en permanence dans ces initiations, il faut remarquer que à Babylone, il y avait une initiation qui était branché sur ce qu'on a pris après nous, le mythe de Gilgamesh, où Gilgamesh était capable de maîtriser un lion à main nue. Mais si on va chez Mithra, en Perse, chez Mithra, qui était né d'une étincelle d'un rocher, hein, d'une étincelle, donc il y avait la lumière dans un rocher, et Mithra était né. Ce ne sont pas simplement de belles histoires, hein, c'est la transmission d'une connaissance à travers toutes ces histoires. Et cette connaissance nous dit à travers le rocher que nous sommes, la pierre que nous sommes, la terre que nous sommes, il y a une étincelle de lumière. Et va naître Mitra. Mitra avait cette faculté de maîtriser les taureaux à main nue. Et c'est une initiation qui avait lieu en 7 degrés, peu importe, avec une déviance qui s'est branchée dessus. C'est-à-dire que les soldats romains, quand ils ont rencontré cette initiation, se sont dit « Mais alors, si on peut devenir aussi fort que le bœuf, que le taureau, pour le maîtriser, alors on va en faire notre dieu. » Et une initiation et une connaissance initiatique est devenue une, religion. Mais c'était la maîtrise du taureau. Si on va en Égypte, je vais très très vite, hein, j'essaye de raccourcir cette partie-là. Si on va en Égypte, il y a une initiation osirienne que nous connaissons et que beaucoup d'entre vous connaissent. L'initiation osirienne en très gros et très rapidement, puisque Osiris était prisonnier d'une colonne, c'est-à-dire du corps qui est dressé entre la terre et le ciel. Mais après, Osiris a été coupé en morceaux et jeté dans le fleuve de la vie qui était le Nil. Et il a été rassemblé par sa femme ou sa sœur, ça dépend des interprétations que l'on peut donner. Et il est devenu un dieu. Rassemblé ce qui était part. C'est encore une chose que nous pratiquons et que nous disons et que nous recherchons dans les mythes initiatiques, maçonniques. Mais rassembler ce qui est épars, vous vous rendez compte tout de suite, et ceux qui connaissent l'histoire, que si en rassemblant ce qui est épars par sa femme, c'est-à-dire par l'amour, c'est-à-dire pour nous par la fraternité, on peut devenir comme un dieu. Et on peut devenir comme un dieu à la condition de ne pas réunir et de ne pas rassembler le phallus, car l'amour n'a pas retrouvé ce phallus, qui ne l'empêche pas d'enfanter un fils spirituel par la suite. Et pourquoi on ne retrouve pas le phallus et il devient comme un dieu? Parce qu'encore une fois, on va dépasser et maîtriser l'animalité. Ce qui veut dire, en gros, que l'homme est un animal. Et ce qu'il faut, c'est maîtriser, dépasser notre animalité. La Bible ne dit pas autre chose. La Bible ne dit pas autre chose parce que la Bible, la Torah, la partie biblique des Hébreux, a été construite à partir des initiations mésopotamiennes. Donc si on reprend textuellement, si on arrive à se débarrasser de ce qui a été rajouté pour en faire une religion, dans la Bible et dans la Torah, dans la Genèse même, on retrouve le même cheminement. On retrouve le même cheminement. A été créée une lumière qui n'est pas la lumière céleste, une lumière. On peut la rapprocher du Big Bang. À partir de la lumière a été créée le ciel et la terre, la lumière et la terre. À partir de la terre a été créé tous les animaux, dans l'eau, sur terre et dans les airs, et puis enfin a été créé l'homme. Les scientifiques ne nous disent pas autre chose. Après le Big Bang a été créé, se sont créés les gaz, puis se sont créés la matière, puis après se sont créés une vie dans les eaux, puis après dans les airs, et puis ils sont sortis. On a créé les animaux de plus en plus complexes jusqu'aux mammifères. L'homme étant, dit la Bible, créé le dernier jour, il est le summum, ou il se dit être le summum de la création animale. Il est le summum de la création animale. Mais après, que pouvons-nous faire? Allons-nous rester un animal et un mammifère? Ou allons-nous essayer de devenir un humain responsable et conscient? C'est le chemin que nous indiquent les initiations. Et notamment, d'ailleurs, la Bible nous dit, puisqu'elle poursuit ce même chemin de connaissance de l'homme, elle nous dit que l'homme cherche la connaissance. Donc, vous voyez, alors que tous les animaux, aucun ne cherche la connaissance, seul l'homme a besoin de poursuivre sa construction. Et pour poursuivre sa construction, il va quitter son état, hein, son état de béatitude, d'innocence, c'est-à-dire d'inconscience. Il va être revêtu de peau de bête. Nous retrouvons l'animalité revêtue de peau de bête et va se trouver sur terre pour travailler, vivre et enfanter. Si on le reprend, parce que tous les mythes initiatiques, il faut les prendre non pas comme de belles histoires, ça ne nous apprendrait pas grand-chose, mais comme nous concernant, en quoi cela me concerne, qu'est-ce que cela m'apporte dans la connaissance de moi-même. Hein, si on, nous pratiquons, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais si nous essayons de voir pourquoi nous parlons par symbole, ce n'est pas, ou par des légendes, ce n'est pas non plus pour avoir de belles histoires ou un langage fleuri particulier, c'est en quoi ça me concerne et en quoi je peux l'utiliser pour me connaître. Alors, cette Bible nous dira exactement, eh bien, nous allons vivre, puisque Adam, si on traduit de l'hébreu, Adam c'est l'homme, la terre, et Ève c'est la vie. C'est la vie. Et donc, si on veut produire la vie, il va falloir enfanter dans la douleur et travailler. Ça ne se fait pas tout seul. C'est un peu une prolongation de la création de notre état pour aller vers la suite. C'est-à-dire, on reprend tout à fait l'image que les scientifiques modernes apportent. Il y a une énergie qui est née au moment du Big Bang, elle se poursuit et se développe dans la complexité jusqu'à l'homme et après. Est-ce qu'elle s'arrête avec nous ou est-ce que cette énergie continue à se développer par nous et en nous ? C'est-à-dire encore que si nous sommes, nés, nous avons été un bébé, nous sommes devenus un enfant, nous sommes devenus un adolescent, nous sommes devenus un adulte, et est-ce que nous allons devenir un homme, un humain ? Ou est-ce que nous allons rester et mettre notre intelligence qui nous permettrait d'aller au-delà de l'animalité, est-ce que nous allons mettre notre intelligence au service de notre animalité, c'est-à-dire nous arrêter dans notre développement humain ? Finalement, c'est la grande interrogation. Vous voyez même qu'il n'y a pas de conflit entre une réflexion, qu'elle soit religieuse ou initiatique. Elle permet simplement de mieux comprendre ce qu'est un homme et pourquoi la religion existe et ce qu'elle a voulu transmettre. Le grand défaut, et ce qui nous a marqué socialement, le grand défaut qui s'est produit avec la religion chrétienne, c'est que la religion chrétienne a été bâtie par Rome. Or, Rome était un empire. Rome était un empire en difficulté. Rome avait besoin d'unir cet immense empire qu'il avait. Et ils ont pris la religion chrétienne comme un ordre politique. Si bien que l'empire, la religion chrétienne de ce moment a abandonné une partie de sa spiritualité qu'elle a réservée peut-être aux moines ou à tous ceux qui la recherchaient, mais au lieu de la développer et de la transmettre, cette richesse spirituelle qu'elle possédait, elle est devenue un empire elle-même. Elle est devenue un pouvoir elle-même. Difficulté, évidemment, car tout pouvoir et va au détriment de la liberté, de la fraternité et de l'évolution, d'autant plus qu'à cette époque, on a construit notre civilisation sur trois grands états. La spiritualité réservée à l'Église, pas question de la donner. Le travail réservé au peuple. Et puis la guerre réservée aux militaires et aux soldats. Ce qui a fait la grande illumination et le grand respect que notre société a pu avoir pour les Templiers, c'est que les Templiers ont été les premiers laïcs s'occupant en même temps de la religion, vivant pour essayer de développer et de respecter une spiritualité et des qualités humaines, et en même temps pratiquant soit la guerre, soit le travail. Donc ça a été vraiment la deuxième grande révolution dans notre civilisation, parce que ça n'a pas été partout comme ça. Mais pour nous, ça a été la première civilisation. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On les a détruits pour retrouver l'ordre. Et c'est pour ça que, si vous voulez, les Templiers sont une référence dans cette liberté de construction humaine. Bon, évidemment, avec tout ça, notre civilisation s'est bâtie avec une morale très restreinte et n'a jamais recherché le développement de la qualité de l'homme lui-même, comme le peut le rechercher les ordres initiatiques, car un ordre initiatique n'est ni un ordre philosophique intellectuel, ni un ordre religieux, ni un ordre idéologique. Finalement, l'initiation a un chemin qui, s'il est pratiqué, permet d'éveiller et d'élargir la conscience humaine. Et comme tout chemin, il ne dit jamais, parce qu'à ce moment-là, ça deviendrait dogmatique, qu'est-ce que nous allons découvrir. Si bien que ce que je me permets de vous transmettre, ça ne peut être que mon expérience personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'ai découvert. Ne dites pas que c'est vrai. Si ça vous intéresse, c'est une lumière et ça peut éclairer un peu votre chemin. Mais expérimentez-le, ce chemin. Voyez si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, après tout. Et qu'est-ce que va nous dire ce chemin initiatique pour rechercher le bonheur? D'ailleurs, entre-temps, je dois aussi vous dire que la Grèce, qui a été une civilisation extraordinaire, lumineuse, essentielle, qui a mis en avant l'humain, qui a amené la réflexion, les débats. Les grands philosophes grecs dont nous parlons toujours, que nous lisons encore, sont des initiés. Ce sont des initiés qui ont été initiés à Éleusis. Éleusis, qui était un site initiatique à 20 km d'Athènes, et qui transmettait le chemin. Et ces philosophes ont simplement retransmis l'expérience qu'ils ont pu avoir et qui leur a semblé un développement de la conscience humaine, et qui ont pu transmettre en se disant, on va partager au moins cette conscience, on va partager ce bonheur de vivre, ce savoir-vivre. Contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas le type de philosophes que nous avons eu au XXe siècle, qui sont surtout des philosophes qui ont beaucoup de savoir, qui connaissent l'histoire de la pensée, de la philosophie, mais qui ne vivent pas la philosophie. Les Grecs, c'était des écoles, aussi bien ce qu'ils appelaient les académies que les lycées, c'était des écoles où l'on pratiquait. Et ils faisaient une différence entre les élèves qui apprenaient et les élèves qui pratiquaient. Et le chemin initiatique, bien sûr, si l'on veut une transformation, c'est un chemin de pratique. Alors, dans ce cas-là, on peut se demander comment retrouver cette pratique. Et qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer? Parce que finalement, c'est ça. Si vous relisez les philosophes, si vous relisez tous les livres des sages même, que ce soit d'Orient, du Moyen-Orient ou d'Occident, il y a longtemps que tout est dit dans les livres. On pourrait dire que pratiquement, on n'a rien inventé. Nous savons depuis l'origine ce qu'est un homme, et ce qu'il doit faire pour évoluer. La grande difficulté, c'est qu'il ne s'agit pas de savoir. La grande difficulté, c'est qu'il s'agit d'être. Il s'agit de faire, il s'agit de pratiquer. Et c'est bien là toute notre difficulté, parce que même dans les ordres initiatiques, il faudrait pas croire que tous ceux qui rentrent dans les ordres initiatiques sont des initiés. Il faut faire une différence entre je suis initié, c'est-à-dire je suis rentré, j'ai assisté à une cérémonie ou d'initiation, et je suis un initié. Un initié, c'est déjà quelqu'un qui a fait une partie du chemin, qui connaît le chemin, qui l'a pratiqué et qui a quelque chose à transmettre aux autres. Quelqu'un qui est simplement initié, eh bien, il a la vanité de dire bah, « je suis franc-maçon ». Je le mets sur ma carte de visite. J'espère trouver des relations pour pouvoir vivre plus et mieux dans la société. Ça peut se faire, mais c'est pas du tout le but d'un ordre initiatique. C'est même dramatique pour les ordres initiatiques qui avant sélectionnaient minutieusement et difficilement les initiés. Il fallait vraiment montrer cette volonté de se perfectionner. Maintenant, entre un ordre initiatique et un autre, il y en a qui annoncent « je suis 20 000 », alors l'autre veut être 25, et puis le troisième veut être 30, et puis celui qui annonce qu'il est 25, alors il faut qu'il annonce qu'il est 30 l'année suivante et qu'il est 45, et on fait une course à la quantité, et nous ne sommes plus bien souvent capables de transmettre le chemin, et surtout de veiller que ce soit pratiqué par chacun. Et c'est bien pour ça que vous voyez de temps en temps fleurir, je dirais même très souvent et trop souvent, fleurir dans la presse quelques scandales. D'abord parce que ça se vend bien. Ça se vend bien parce que les maçons eux-mêmes espèrent découvrir ce qu'ils n'ont pas découvert. Comme ça n'existe pas, ils ne risquent pas de le découvrir. Et puis en même temps, les profanes, c'est-à-dire les non-maçons, espèrent aussi pouvoir découvrir ce que disent et ce que font de mal les maçons. Comme ça, ils ont l'impression, eux, d'être bien, puisqu'ils ne font pas ce qui est mal fait par les maçons. Ils en font exactement la même chose. Il y en a autant qui font la même chose. Donc, voilà en gros comment nous pouvons être en route à cette recherche. Maintenant, si nous sommes dans cette recherche, et s'il faut maîtriser notre animalité, il faut toujours nous rendre compte ce qui nous empêche de maîtriser cette animalité. Puisqu'elle existe parce que nous sommes formatés, elle existe par hérédité, elle existe par notre apprentissage, elle existe par notre éducation. Nous sommes formatés, comment il faut pratiquer. Eh bien, un des premiers éléments de cette recherche du bonheur est de se recentrer. Recentrer sur soi-même. Recentrer sur soi-même pour commencer à avoir conscience de soi-même. Parce que nous vivons toujours dans la société pour paraître. Puisque nous avons besoin de bonheur, c'est-à-dire d'amour, finalement, puisque nous avons besoin d'amour et de reconnaissance, eh bien, nous faisons semblant d'être mieux que les autres, pour que les autres nous admirent et nous aiment. On ne se rend pas compte que ceux qui nous aiment, ils font aussi semblant de nous aimer, parce qu'ils veulent bénéficier, eux aussi, de notre reconnaissance. Donc, finalement, quand je dis que c'était la faute des autres, en fait, c'est la faute de notre humanité. C'est peut-être pas une faute, hein, c'est pas un défaut. Il s'agit pas de critiquer, il s'agit de voir et d'être conscient de cette mécanique qui fait que nous sommes comme ça. Et nous sommes donc comme ça parce que nous recherchons l'amour, la fraternité, la reconnaissance. Et si nous le recherchons, c'est parce que ça nous manque, bien sûr. Et on va donc se recentrer pour essayer d'avoir conscience de soi-même. D'avoir conscience de soi-même, d'avoir un axe, car nous vivons, je disais mécaniquement, nous vivons comme des automates, nous sommes une machine, et d'être une machine est assez horrible pour que nous ne voulions pas l'accepter. Hein, je sens déjà pas mal de personnes parmi vous qui disent que lui, s'il est une machine, ça le regarde, mais moi, je ne suis pas une machine. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il faut déjà avoir conscience. C'est pas de nous critiquer de ne plus être une machine, c'est d'avoir conscience d'être une machine. Et pour ça, il faut recentrer notre travail sur nous-mêmes. La première des choses, c'est de nous recentrer sur nous-mêmes. D'ailleurs, ça se passe dès les premiers degrés en franc-maçonnerie, puisqu'on descend sous terre, dans la terre. La terre étant simplement l'homme, puisque l'homme est pétri de terre. On descend dans la terre, dans un cabinet de réflexion, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez comment tout est symbolique et comment il faut arriver à décrypter et à comprendre le langage symbolique, non pas parce qu'il est mystérieux, parce que le langage symbolique s'adresse à notre être intérieur. Or, si nous, il s'adresse, lorsque nous lisons quelque chose qui s'adresse à notre cerveau, nous commençons à conceptualiser et à comparer ce que nous savons avec ce que nous entendons ou ce que nous voyons, si bien qu'on ne peut pas créer quelque chose de nouveau. Or là, l'initiation nous dit il y a quelque chose d'autre, quelque chose que nous ne connaissons pas. Et il faut trouver le chemin qui va nous permettre de retrouver ce que nous ne connaissons pas, alors que ce que nous connaissons, c'est-à-dire notre ego, ne veut surtout pas aller ailleurs, parce que lui-même, il va perdre de son pouvoir. Et s'il perd de son pouvoir, il n'est pas d'accord. Et vous voyez, même au début, si on est attentif à soi-même, on se rend compte que l'initiation elle-même est une démarche égotiste. D'ailleurs, soyons honnêtes, moi qui ai toujours passé ma vie à rechercher la spiritualité, j'ai fait de la séduction à la spiritualité, ça me permettait d'épater les gens. Mais c'était l'ego, c'était pas mon être, puisque je le connaissais pas encore. Donc vous voyez qu'il y a toute une finesse de sa démarche à retrouver soi-même et une honnêteté à comprendre avec soi-même. Et pour se libérer des automatismes, il faut se recentrer et voir honnêtement comment on fonctionne et reconnaître comment on fonctionne. C'est pas gênant, il s'agit pas de se confesser ou de le dire aux autres, je suis mauvais, je bats ma coulpe, c'est épouvantable. Non, c'est vis-à-vis de soi-même. Quand on a vis-à-vis de soi-même la vision de l'horreur de la situation dans laquelle on est, on a envie de changer. Or, il n'y a pas de changement si on n'a pas envie. Si on est en train de dire que l'on va passer de l'homme animal mécanique à l'être, à l'homme authentique, à l'homme sincère, à l'humain que nous sommes, passer de l'un à l'autre, ça veut dire faire un certain chemin. Si je veux changer d'appartement, il faut que je quitte celui où je suis pour que j'aille chez un autre. Donc si je veux aller en moi-même, dans une autre couche de moi-même, il faut bien que je me mette en route en connaissant ce qui est, où je suis, parce que si je suis bien, je vois pas pourquoi, et c'est pas plus mauvais. Si on est très bien, si on est très heureux, tout au moins si on n'ose pas aller ailleurs, on va pas aller ailleurs. On va continuer à lire beaucoup pour pouvoir épater les amis. On va continuer à faire des voyages. J'ai fait l'Égypte, j'ai fait la Grèce, j'ai fait comme si on était capable de faire quelque chose. Ça veut dire que je me suis simplement déplacé. J'ai regardé si j'étais capable de voir. Et puis comme ça, dans les salons, on va pouvoir raconter ce que j'ai pu lire ou ce que j'ai pu voir. On va être très intelligent par rapport à ceux qui n'ont pas fait. Donc on cherche toujours l'extraordinaire dans ce qu'on va faire. Mais c'est notre ego qui cherche tout ça. Donc on peut toujours s'agiter dans notre monde. On ne change pas. On reste dans notre monde. En fait, si l'on reste dans le fonctionnement de notre animalité, on reste sur le niveau de la conscience de l'animalité. Si je commence à rentrer dans la conscience de mon être, alors je peux élargir mon âme. C'est pour ça que je disais que devenir plus humain, c'est un élargissement de la conscience. Si j'ai conscience de mon humanité, je suis en relation avec le monde de l'humanité des autres. C'est pas égoïste. C'est pas pour obtenir, c'est pas pour avoir, c'est presque pour donner, pour vivre plus heureux. Vivre plus heureux parce que, au lieu de me heurter à la dualité des gens, au lieu de me heurter à l'égoïsme des gens, au lieu de me heurter à la vanité, à l'orgueil, à tout ce que je peux rencontrer et qui m'irrite parce que je voudrais être plus qu'eux, je commence à rentrer en relation avec l'être humain intérieur. Et je commence à me rendre compte que s'il est vaniteux, orgueilleux, prétentieux, c'est simplement parce qu'il est comme moi, il est malheureux et il a envie de paraître autre chose. Finalement, il a en lui cette énergie de transformation, de prolongement de l'animalité en humanité qu'il n'exprime pas, qui ne grandit pas, et il est obligé de faire semblant pour trouver un peu de bonheur, un peu de plaisir dans l'ego. Mais nous savons que dans le monde qui est mouvement et transformation, on ne peut pas trouver cette paix et ce bonheur plus éternel et plus prolongé. Donc voilà un peu quel est le chemin qu'on va essayer de nous indiquer. C'est un peu comme si nous prenions, par exemple, une plante. Mais vous savez, les plantes, même les plantes, une graine qui tombe dans la terre, elle ne vit pas facilement. Il peut y avoir une terre sèche qui l'empêche de germer. Il peut y avoir une racine d'arbre qui l'empêche de s'élever, il va falloir la contourner. Il y a des racines qui vont avoir besoin d'aller très profondément sous terre ou dans les rochers pour trouver un peu de nourriture. La vie même des plantes n'est pas facile. Je ne parle pas de la vie des animaux, qui est absolument épouvantable. On le voit souvent dans les émissions naturalistes en télévision, où on nous montre combien de petites grenouilles meurent, combien de petites tortues meurent au moment de la naissance. Finalement, la vie sur Terre est très mécanique et n'est pas une vie aisée. N'est pas une vie de bonheur. Or, nous recherchons le bonheur en tant qu'animal. En tant qu'animal, nous ne trouverons jamais le bonheur. Le bonheur, c'est peut-être dans notre effort, notre désir d'être autre. D'être autre pour trouver un monde autre. Pour trouver un monde plus élargi, un monde plus humain. Un monde où il n'y a plus cette compétition, ce qui ne veut pas dire que nous soyons naïfs, parce que quand l'être intérieur se développe, si nous ne sommes plus sous la coupe de l'ego, l'ego est toujours là. Et donc nous sommes toujours confrontés d'une certaine façon, au désir de l'ego, et puis en même temps, nous sommes confrontés et nous pouvons commencer à laisser vivre cet être intérieur qui va développer trois branches. Lorsque nous vivons nous-mêmes comme animal, nous vivons en gros avec trois ou quatre centres principaux. Il y a un centre physique puisque nous sommes un animal physique. Il y a un centre affectif puisque nous avons des émotions. Et puis, il y a un centre intellectuel, puisque nous avons également des pensées. Si nous voulons commencer à nous intérioriser, à nous recentrer tout au moins, on va pouvoir faire un lien entre le physique, les émotions et l'intellect. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si j'ai conscience des trois, et si je les réunis dans ma conscience, je ne peux plus exploser. Parce que vous voyez bien que très souvent, c'est une émotion, parce que j'entends dire quelque chose de moi, ou je crois qu'on a dit quelque chose, que je commence à me révolter, que je commence à me fâcher, que mon intellect commence à analyser, oh, il pense ça, et s'il a fait ça, c'est qu'il pense, parce que c'est très froid tout ça. Et nous sommes vraiment dans le domaine de l'imaginaire. Et plus nous sommes dans l'imaginaire, et plus nous souffrons parce que l'intellect alimente l'émotion, l'émotion alimente l'intellect, et nous pouvons partir dans des zones totalement, j'allais dire même de folie complète, où il faut après avoir affaire à des psychanalystes ou à des médecins pour pouvoir nous recentrer et nous dégager de cette tourmente. Lorsque je suis centré sur moi-même, recentré sur moi-même, je sens qu'il va y avoir une naissance d'une impulsion affective, je sens qu'il va y avoir une impulsion intellectuelle, mais je ne la suis pas parce que j'ai un axe beaucoup plus profond, beaucoup plus réel. Ça existe. Et c'est là toute la difficulté dans notre vie, c'est de rester centré sur nous-mêmes et en même temps de pouvoir vivre dans la société normalement. En fait, lorsque va se développer l'être intérieur, c'est-à-dire cette sensation, cette conscience que j'existe intérieurement ou que j'existe différemment. Quand je vais avoir ceci, il va y avoir une intelligence qui va se transformer. Parce que l'émotion pure va devenir un sentiment. Il va y avoir et l'émotion et le sentiment. Mais l'intelligence aussi, il va y avoir et le fonctionnement automatique du cerveau et la vision intuitive, le sentiment intuitif de l'intellect, et ils vont se rajouter. C'est bien pour ça qu'il y a une ouverture de la conscience. Ce n'est jamais, le chemin initiatique n'est jamais un abandon de la liberté, c'est au contraire avoir une vision plus large, plus libre, plus ouverte. Et quand je dis plus libre, je veux bien dire de la liberté aussi vis-à-vis de ces mécanismes. Et si je suis libre par rapport à mes mécanismes, je deviens libre par rapport aux mécanismes des autres. Et je vois bien que s'il a dit quelque chose ou s'il a fait quelque chose, c'est parce qu'il est pris par la puissance de ces mécanismes. Et dans ce cas-là, je deviens beaucoup moins inquiet, beaucoup moins violent, beaucoup moins hargneux, je désire moins de vengeance, je commence à me libérer. Et si je me libère, je commence à avoir plus de bonheur, de paix et de sérénité. Et puis, il va y avoir à partir de là un autre mouvement que je viens de décrire d'ailleurs, qui est le décentrage complet. C'est-à-dire, en même temps, je suis centré sur moi-même, donc je commence à garder une conscience, et en même temps, je me décentre sur le monde. Et si je suis avec ce décentrage, chez nous, c'est simplement le voyage à travers ce qu'on symbolise l'étoile dans toutes les directions. Si je commence à me décentrer vers tout ce qui existe dans le monde, alors je ne vis plus uniquement pour moi, je commence à vivre aussi pour les autres et pour le monde. Et si je vis pour moi, me connaissant et pouvant vivre pour moi, et me connaissant pouvoir vivre pour le monde, alors se réunit à l'intérieur de moi-même une conscience totalement différente, une façon d'aborder la vie totalement différente. Je ne suis plus ni hargneux, ni inquiet, ni violent. Je deviens un témoin de cette vie. Et si je deviens un témoin de cette vie, je deviens aussi responsable. Car tout à l'heure, en commençant, je disais que c'est à cause des autres. Mais finalement, nous faisons partie des autres. Et c'est par mon comportement que je peux commencer à influencer sur le bonheur des autres. Et je deviens responsable, comme disaient Abel et Caïn, je suis responsable de mon frère. Je deviens responsable de mon frère parce que je suis responsable de l'autre humain. Et si au lieu de chercher, ce que je disais il y a un instant, ce que pense quelqu'un, et pourquoi il a agi comme ça, et qu'est-ce qu'il m'en veut, et pourquoi, je commence à le ressentir, à ressentir sa souffrance. Alors c'est plus des choses froides et coupées et je suis plus isolé dans la solitude. Je commence à communiquer car la souffrance, nous avons tous souffert et nous souffrons tous. Et si je me relie à la souffrance des autres, alors les autres font partie de moi et moi je fais partie des autres. Et à ce moment-là, je peux aider. Je suis un humain parmi les humains et les autres font partie de moi-même. Donc vous voyez qu'on retrouve ce bonheur. Alors on peut avoir effectivement à un certain moment cette impression de détachement parce que l'ego vibre très fort avec nos émotions. L'ego vibre très fort avec nos ambitions. L'ego vibre très fort avec nos conquêtes. Mais dès que le moment où l'ambition a été réalisée, où la conquête a été faite, il a besoin de vibrer encore plus. Donc il n'est jamais rassasié. Mais dès le moment où ce n'est plus l'ego qui vibre, c'est l'être intérieur, alors il commence à vivre. Tout ce que je... Et là, c'est la vie qui participe à ma vie. Et à ce moment-là, je poursuis l'énergie dont on parlait tout à l'heure, qui est celle de la source primordiale, je la poursuis à l'intérieur de moi-même et je la réalise. Pour vous donner une image plus concrète, qui a ses limites, bien sûr, comme toutes les images, on peut trouver un rosier merveilleux. C'est un arbre, après tout, vert, avec des feuillages, des branches qui changent de couleur. Bon, bien sûr, il y a des épines, mais enfin, dans la vie, on vient d'en parler, il y a des épines. Donc vous voyez que c'est en même temps assez beau. Mais si je poursuis cette évolution du rosier, je peux avoir un bouton de rose. Et ça peut me sembler encore plus extraordinaire. Tellement extraordinaire que je ne veux pas aller plus loin. Je coupe la rose et le bouton de rose et je la mets dans un vase. C'est bien ce qui se passe. Nous ne voulons pas évoluer finalement. Nous sommes heureux avec nos biens, notre voiture, notre appartement, nos enfants. On ne veut pas changer. On va en avoir plus, mais on ne veut pas que ça change. On veut rajouter, mais on ne veut pas changer radicalement. Et pourtant, si au lieu d'arrêter cette évolution de la fleur humaine, on l'a laissée s'épanouir, à ce moment-là, on a une rose elle-même. Alors, est-ce qu'on veut devenir une rose humaine ? Est-ce qu'on veut aller jusqu'au bout ? Je dois vous dire que je ne sais pas ce qu'est le bout. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne sais pas quel serait l'homme qui serait complètement épanoui et qui aurait complètement évolué, mais en tout cas, on peut penser, on peut ressentir que si nous avons les trois centres dont je vous ai parlé, l'être intérieur a également ces trois centres. L'être intérieur peut aussi avoir une conscience matérielle, c'est plus une idée, c'est vraiment une conscience de cet être qui est vivant. Comme je vous dis, il a des sentiments. Et les sentiments qui vont commencer à naître, c'est le sentiment d'amour. Hein, autant on pourrait dire que dans l'homme physique, le véritable sentiment, c'est la fraternité. Je dis la fraternité parce que, encore une fois, si j'examine mes mécanismes, qu'est-ce que j'appelle amour ? Est-ce que je suis capable de donner de l'amour ? En fait, qui est-ce que j'aime ? J'aime ceux qui m'aiment, parce que je suis très content qu'on m'aime. J'aime ceux qui me donnent une bonne situation, parce que j'ai besoin d'argent. J'aime ceux qui reconnaissent ma valeur, parce que j'ai envie d'être quelqu'un. Finalement, j'aime quand on me donne. Je suis en fait un mendiant de l'amour. Mais est-ce que j'aime ? Est-ce que je suis capable d'aimer ? Est-ce que je peux ressentir cet amour ? Égoïstement, par la mécanique, non. L'homme animal ne peut pas ressentir. Ce qu'il peut ressentir le plus proche de ce que serait, cet amour, c'est l'amour physique, au mieux. Cette impulsion brusquement d'exploser où on ne sait plus où on est. Mais c'est peut-être cet amour-là qui fait partie de l'être, qui est la suite, qui est ce que prend l'être en charge et qu'il va devenir, c'est-à-dire... Je commence à aimer simplement parce que je suis en contact, parce que je suis en relation. C'est ce que les soufis disent, aimer de mon être à ton être. Ce qu'on pourrait dire, nous, aimer de mon cœur à ton cœur. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il y a autour, ce que je sens, c'est ma vie et j'ai envie de la partager. Et je sens celle des autres aussi. Celles qu'ils ne connaissent peut-être même pas, celles qu'ils ne savent pas exprimer, celles que je ne peux pas exprimer, parce que mon expression verbale est une expression physique. Or, je suis dans un monde déjà différent, avec des sensations différentes, une énergie différente. Comment je peux partager ça ? J'essaye d'utiliser des mots, j'allais dire d'en bas, pour expliquer des choses plus élevées. C'est difficile. Et puis, brusquement, cet être... ce que les philosophes grecs appelaient notre âme, finalement. Cet être, une fois réuni, donc recentré aussi, va pouvoir se surcentrer. Et quand cet être se surcentre, c'est-à-dire quand je suis vraiment à l'intérieur de moi-même, j'ai une sensation d'amour totalement différente. Totalement nouvelle, de bonheur totalement nouvelle, de relation avec le monde. Le monde me semble habité par ce surcentrage. Le monde, c'est ce surcentrage. C'est vraiment son intérieur, et l'extérieur est la peau de bête dont la Bible nous disait au début, nous sommes recouverts de peau de bête. Et quand je suis à ce niveau-là de mon intériorité, alors c'est d'esprit à esprit, on n'a plus envie de guerre, non pas de critiquer ceux qui font la guerre, on n'a plus besoin de faire la guerre, parce que la guerre c'est défendre l'ego finalement. Donc j'ai plus besoin de faire la guerre, je suis vraiment dans une relation très fine, dans une relation très particulière avec tout ce qui m'entoure, et je rentre petit à petit dans cette lumière, qui est cette lumière et cette énergie très subtile qui avait commencé à la création et qui me pousse vers l'infini. Vous voyez vraiment tout le chemin de transformation de l'humain, l'humain qui devient alors vraiment le sommet de la création, qui le devient, je dis bien le devient, parce que il ne peut le devenir que s'il fait l'effort de le réaliser. Ça ne se réalise pas tout seul, cette transformation. C'est de notre responsabilité. Nous prétendons être des hommes, est-ce que nous pouvons faire ? Mais faire des petites choses dans la vie quotidienne, les faire détacher, les faire en étant témoin, les faire sans que l'ego le prenne en charge et se révolte, est-ce que nous pouvons le faire ? Alors il y a tout un développement de nos réactions et de nos mouvements. C'est ces réactions et ce mouvement que je ne vais pas développer devant vous, mais que je développe particulièrement dans les derniers chapitres du livre, parce que c'est ceci qui peut nous apprendre à vivre. Là, nous avons aussi parlé, on a fait de la théorie, mais le bonheur n'est pas une chose théorique, c'est pas un idéal. Vous voyez, on a parlé des religions au début parce que l'homme a cru que le bonheur viendrait des religions. Et puis l'homme s'est rendu compte que les religions, finalement, c'était devenu un pouvoir et ça n'apportait pas le bonheur. Alors, en se libérant des religions, on a créé les sciences. Et l'homme a cru que les sciences allaient apporter le bonheur. Ils apportent des choses, surtout les technosciences, qui sont plus faciles. Hein. Je ne vous cache pas que je préfère laver le linge à la machine plutôt qu'à le faire moi-même à la main. Mais ça ne m'apporte pas du bonheur, ça m'apporte de la facilité à vivre. Alors quand on s'est rendu compte de ça, vers le milieu du XXe siècle, on a créé des idéologies, des grandes idéologies. Mais on s'est rendu compte qu'elles n'apportent pas le bonheur, ces grandes idéologies, parce que ce sont des idées. On ne peut pas les vivre. Donc ce qu'il faut, c'est devenir soi-même capable de les vivre. Et ça, il n'y a que le chemin initiatique qui nous l'apprend. Le chemin initiatique est vraiment un chemin qui va nous faire partir de ce que l'on est, va nous recentrer pour voir ce que l'on pourrait être, et découvrir ce que l'on est plus profondément, va nous amener à nous décentrer pour inclure et englober le monde en nous-mêmes, dépasser notre ego pour devenir un être humain, et dépasser l'être, peut-être, un jour, pour rejoindre la lumière et l'esprit. D'ailleurs, dans nos rituels, il y a une phrase extraordinaire, on dit « Que sommes-nous venus chercher la première fois ?» On dit « La lumière ». Alors, cette lumière, on ne sait pas ce que c'est. Moi, j'aime bien dire que c'est la connaissance, mais je me méfie quand il y a un mélange entre connaissance et savoir. Et je préfère qu'on dise « C'est la conscience ». C'est cette conscience de soi-même qui va s'ouvrir jusqu'à la conscience des autres. C'est cette conscience qui va nous permettre de ne plus être avare, égoïste, mais de ne plus être, je dis bien de ne plus avoir. Mais ça ne va jamais être terminé, parce qu'il va y avoir toujours l'ego qui est là. Et l'intelligence qui va justifier comment il a osé, il m'a fait, il mérite bien ça. Ou même chez les initiés, je sais mieux que lui, je vais lui apprendre. Comment c'est intolérable ? Il est frère et il a fait ceci ? C'est révoltant. Je vais lui donner une bonne leçon. Ça aussi, ça ne devrait pas exister, mais nous sommes en chemin, n'est-ce pas ? Nous sommes initiés, mais nous ne sommes pas encore un initié. ce chemin que nous allons faire, que nous pratiquons, que j'essaye de décrire alors avec beaucoup de précision pour que ce soit un guide pratique, que l'on se reconnaisse, qu'on dise tiens, aujourd'hui je vais prendre ce point-là et je vais le travailler. Je vais le voir en moi. Je ne vais pas dire oh non, je suis mieux. Hein, bien sûr, ça, on le sait qu'on est mieux. Mais vraiment, est-ce que je ne suis pas comme ça? D'ailleurs, ce qu'on reproche aux autres, qu'est-ce que c'est? Ben, ce qu'on a soi-même et qu'on n'ose pas s'avouer. Donc les autres servent aussi de miroir pour nous comprendre. Je vous remercie. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas su vous dire. Il y aurait de quoi travailler pendant des heures. Mais je vous remercie et j'espère que vous allez trouver en vous-même ce bonheur de trouver le bonheur. Merci.